Bible dans l'évangile de Matthieu. Et nous allons au chapitre 5 et nous allons lire un petit verset, le verset 13. Matthieu 5, verset 13 nous dit « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi le lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Alors j'aurais pu continuer, prendre le passage en entier, mais j'ai voulu me focaliser sur ce verset, parce qu'il m'a semblé intéressant d'approfondir un petit peu l'analogie que le Seigneur fait entre le sel et nous-mêmes. Vous êtes le sel de la terre. Alors, vous avez bien compris que ce matin, on va beaucoup parler de sel. Jusque-là, je ne vous ai pas perdu. Alors, le sel, il n'y a rien de plus simple, en fait. Je me suis quand même renseigné un petit peu pour savoir s'il y avait quelque chose de compliqué là-dedans. Non, pas du tout. Le sel, ben, on le trouve un peu partout. Mais il n'a pas toujours été si simple à trouver, le sel. Bien entendu, il est question ici d'une analogie qu'utilise Jésus pour nous faire comprendre une vérité tout à fait essentielle. Et en même temps, pour nous donner, je dirais en quelque sorte, une feuille de route quant à notre rôle et à notre état pendant notre vie sur terre. Voilà qui est intéressant, l'analogie du sel et du croyant, donc très riche. Dans ces applications, et nous allons développer certaines facettes de cette comparaison, parce qu'on ne pourra pas les faire toutes. Hein. Vous allez voir que le sel, un ingrédient aussi simple, peut avoir beaucoup d'applications. Donc on va faire ressortir un petit peu la personnalité et le rôle que Dieu veut que nous ayons face au monde perdu par cette analogie. Alors, de nos jours, le sel, c'est une denrée très, très facile à trouver. Vous allez dans un supermarché, dans une épicerie, dans un hypermarché, vous avez du sel, sans problème, vous avez un rayon entier de sel, alors par petit, par moyen, par grand, et en plus, ça ne coûte pas cher. Vous pouvez acheter du sel, ça ne va pas vous ruiner, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, mais du temps de Jésus, il n'en était pas tout à fait comme cela. Hein. C'était tout autrement. Le sel était précieux et rare, et ses applications étaient multiples. Pour vous donner un ordre d'idée par rapport à la préciosité du sel à cette époque-là, les Grecs l'appelaient Théon. C'est intéressant, j'ai trouvé ça sur Internet, ce qui signifie « divin ». Tellement c'était important d'avoir du sel qu'en fait, ils le comparaient à quelque chose de divin. Les Romains payaient leurs soldats avec du sel, hein, d'où le mot salarium, que vous connaissez tous, hein, dérivé du mot sel, et qui désignait la ration de sel fournie aux soldats en paiement de leur service, et qui a donné, bien entendu, le terme bien connu actuel de salaire, utilisé maintenant pour désigner le paiement de l'employé. Ça aussi, j'ai trouvé sur Internet, ça m'a paru très intéressant, parce que finalement, je ne le savais pas. Le salaire, pour moi, c'était quelque chose de tout à fait abstrait, en tout cas au niveau du nom, peut-être pas au niveau de ce que ça implique, mais salarium, sel, c'était quelque chose d'intéressant. Hein, et les Romains avaient bien compris l'utilité du sel et sa rareté, bien entendu, puisque ce qui fait la valeur de quelque chose, c'est sa rareté. Donc, dans de nombreuses sociétés primitives, on utilisait aussi le sel comme marque d'amitié. Quand on partageait le sel, on s'engageait à agir mutuellement pour le bien l'un de l'autre. C'est très intéressant. Hein, et c'était quelque chose, le sel, qui était tellement important que ça scellait les amitiés. Au Proche-Orient, on utilisait également le sel afin de sceller une alliance. Waouh! On peut d'ailleurs comparer cela, si vous voulez, au passage devant le notaire actuel, qui coûte beaucoup plus cher, pour ceux qui connaissent le prix. Et ça servait, évidemment, à authentifier un contrat ou un engagement. Donc toutes ces utilisations nous montrent l'importance accordée au sel du temps de Jésus. On a perdu un petit peu cela de nos jours, puisque le sel, évidemment, n'est plus une denrée rare. Il est produit très facilement dans les marais salants ou dans les carrières de sel-gemme, etc. Alors, vous voyez, je me suis bien renseigné. C'était très utile pour moi. Jésus utilise donc cette analogie et il ne veut pas l'utiliser à la légère. C'est quelque chose de très important pour lui. Il veut que tous ses auditeurs, qu'ils soient d'ailleurs grecs, romains ou juifs, puisqu'il s'adresse à tout le monde, comprennent la pleine signification de cette comparaison, ou au moins, s'ils n'ont pas compris la signification de l'analogie, en tout cas, son importance. Dans ce passage, alors, qui est placé où ? Il est placé dans le sermon sur la montagne, que vous connaissez tous, heureux, etc. Et vous êtes le sel de la terre. Waouh ! Il est suivi d'ailleurs par « vous êtes aussi la lumière ». Le sel, la lumière, c'est quelque chose placé ici et très important. Donc il s'adresse avant tout à ses disciples. Il veut aussi par là leur faire comprendre qu'ils ont une fonction, que nous avons une fonction très importante dans le monde. Alors la question que je nous pose ce matin est celle-ci. Quelle influence avons-nous en tant que chrétiens sur le monde qui nous entoure ? Sommes-nous réellement le sel de la terre, comme nous le demande notre Seigneur ? Ou bien avons-nous perdu notre saveur, aussi bien individuellement, d'ailleurs, que communautairement ? Alors ce matin, j'aimerais développer, je vous l'ai dit tout à l'heure, des analogies. Alors j'en ai relevé quatre, il y en a certainement beaucoup plus, mais je pense que ces quatre-là sont extrêmement importantes. Donc, je vais développer quatre analogies, quatre images, si vous le préférez, du sel représentant le croyant sur terre. Je vais vous les donner. Donc, comme le sel, le croyant devrait donner de la saveur. Il devrait également purifier. Le croyant devrait aussi donner soif. Et le croyant devrait enfin conserver. Conserver. Là, on va se pencher sur ces quatre analogies. Le croyant doit donc donner de la saveur. Ça, je ne vous apprends rien. Le sel, ça sert à saler. Bravo. Bien des plats sont complètement insipides s'ils manquent de sel. C'est clair. De la même manière, le monde qui nous entoure est insipide, s'appuyant sur des choses, des valeurs qui ne sont pas bonnes. L'argent, le pouvoir, le sexe, les loisirs, etc., et j'en passe, et des meilleurs. Toutes ces choses revêtent une grande importance pour le monde. Certaines, d'ailleurs, ne sont pas mauvaises en soi, comme l'argent, le sexe, les loisirs. Cela n'est pas mauvais en soi. En fait, leur nocivité vient plutôt du contexte dans lequel on les met en œuvre, ou de la priorité qu'on leur donne dans notre vie. D'accord ? On a besoin d'argent pour vivre. On ne fait plus de troc. Donc, on a besoin d'argent, d'un salaire, justement, pour pouvoir subvenir à nos besoins. On a besoin de loisirs pour pouvoir se reposer, pour pouvoir vivre une vie agréable. Le sexe dans le mariage n'est pas proscrit, au contraire. C'est quelque chose de béni par Dieu, n'est-ce pas ? Et, etc., etc. Donc, c'est vrai que le contexte dans lequel on utilise ces choses fait que ces choses seront bonnes ou mauvaises. Dieu veut que nous donnions de la saveur, une saveur divine à ce monde. Dans Colossiens 4:6, nous pouvons lire « Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Alors cette première affirmation, j'y réfléchis un petit peu, mais elle fait quand même apparaître un problème lié à l'image qu'ont nos contemporains concernant les chrétiens en général. En effet, souvent, dans l'inconscient collectif, j'allais dire, entre guillemets, le chrétien a une image plutôt insipide. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Restrictivité, des libertés, du genre, si tu es chrétien, tu ne dois pas faire ci, ou tu ne dois pas faire ça. D'accord ? Effectivement, c'est vrai, l'abus de sel peut rendre un plat immangeable. Vous avez fait l'expérience, certaines fois, hop, la salière est tombée, c'est terminé, vous pouvez tout jeter. De la même manière, l'abus de dogme, de religiosité, de prescription rigoriste peuvent également rendre notre témoignage immangeable. C'est vrai. Il faut que nous ayons un équilibre dans ce que nous disons et dans ce que nous vivons. D'accord ? On n'est pas là justement pour faire comprendre aux gens « tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça, etc. etc. » Nous avons une liberté en Christ que les gens ne comprennent pas. D'accord ? Restons donc vigilants afin de donner une image correcte et non déformée de la réalité chrétienne. Paul nous met en garde, d'ailleurs, dans 2 Corinthiens 2, 15 à 16, il nous dit « Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent, aux uns une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie. » Alors le fait que notre vie ou notre témoignage ne sont pas bien reçus ne doit pas nous porter non plus à édulcorer la vérité. On passe du sel au sucre. D'accord ? Pourquoi ? Parce que cette vérité met en lumière la perdition des incroyants. Alors, on ne peut pas mettre trop de sel, mais on ne peut pas mettre trop de sucre non plus. C'est pour ça qu'il faut avoir un équilibre, et cet équilibre nous vient de la sagesse du Saint-Esprit. D'ailleurs, dans la suite de ce passage, verset 17, il nous dit « Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. » Alors, l'évangile, c'est l'évangile. On ne peut pas prendre un morceau de l'évangile, laisser l'autre morceau. Soit on prend tout, soit on prend rien. Alors, il y a des bonnes nouvelles dans l'évangile, et d'ailleurs, l'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est le salut en Jésus-Christ, c'est le pardon des péchés. La mauvaise nouvelle, parce qu'il y a aussi une mauvaise nouvelle dans l'évangile, c'est que ceux qui ne se convertissent pas vont en enfer. Le fait de cacher cette vérité, bien, nous édulcorons la vérité. Et nous oublions, justement, de donner la vraie saveur que le croyant doit donner dans le monde. Alors, prenons bien garde à la saveur que nous donnons autour de nous. Il faut qu'elle soit juste, pas trop salée, pas trop sucrée. On rentre dans le domaine culinaire presque, n'est-ce pas ? Il faut que le plat soit bon à manger. Et pour ceux qui nous écoutent, ceux qui nous voient vivre, il faut que notre vie soit d'une bonne odeur pour eux, devant Christ. Voilà donc la première chose que je voulais vous dire concernant le sel et l'analogie qu'on peut en faire. Nous avons à donner de la saveur aux gens qui nous entourent. Alors, la seconde analogie, comme le sel, le croyant doit purifier. Waouh ! Le sel, il est blanc. En tout cas, quand il est raffiné, quand il est nettoyé, au début, il n'est pas blanc. Mais ensuite, il est très blanc. Et donc, cette blancheur peut représenter la pureté du croyant. Quelques versets plus haut, donc, dans le sermon sur la montagne, Jésus nous dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Moi, j'ai relevé, plus que la blancheur du sel dans ce cas-là, plutôt les propriétés désinfectantes du sel qui sont mises en avant dans cette image. Ce me semble plus important et plus intéressant pour nous. En effet, c'est sa teneur en iode qui lui donne son pouvoir désinfectant. Là aussi, doctissimo, hein. Je vous recommande. Cela lui permet de combattre les angines, les enrouements, les extensions de voix. Ça désinfecte les plaies, les écorchures et même les blessures. Donc vous voyez, le sel est bien un désinfectant. Alors, au niveau de notre analogie, à quoi ça correspond ? Notre pureté doit contraster avec la corruption du monde qui nous entoure. Notre exemple de justice, de bonté, d'amour, de joie doit contraster et condamner la corruption du monde. Notre défi donc en tant que chrétien est donc de renvoyer une image de pureté véridique en accord avec nos actes aux gens qui nous entourent. Vous avez déjà fait l'expérience que si vous dites ce que vous ne vivez pas, ça ne fonctionne pas. Les gens vont vous rire au nez. Bien pour nous, c'est la même chose. Nous devons donc renvoyer une image de pureté pour que les gens nous prennent au sérieux. Si nous disons que nous croyons en Jésus-Christ, qui lui était sans péché, qui est venu sur terre pour nous sauver et pour nous décharger de nos péchés, eh bien, nous devons vivre comme Jésus a vécu. Non pas sans péché, parce que, hélas, ce n'est pas encore possible pour nous, mais il est fidèle et juste pour nous purifier de toute iniquité. Et c'est l'image que nous devons donner au monde, une image d'humilité, de sainteté. C'est bientôt midi, hein ? Mais je passe au troisième. Vous allez voir, on va y arriver. Si je dépasse de 5 minutes, ça va ? 5 minutes. Comme le sel dont le croyant doit donner soif. C'est bien connu, là, je ne vous apprends rien, que la consommation de sel, ça donne soif. Hein, manger de la charcuterie, vous allez voir, le litre d'eau va passer très très rapidement derrière. Une autre caractéristique du sel, c'est de favoriser la conservation des liquides dans le corps. Doctissimo. C'est ce que l'on appelle la rétention d'eau. Alors, les filles connaissent ça plus que les garçons. Hein, cellulite, etc. C'est un peu embêtant. Quand on garde l'eau dans le corps, on n'a qu'une seule chose en tête, c'est de s'en débarrasser. Donc, de là découlent plusieurs applications médicales ou paramédicales, je dirais, concernant la consommation du sel. Pour notre propos de ce matin, la première caractéristique va nous intéresser beaucoup plus. Hein, car quoi de plus glorieux pour un croyant que de donner soif ? Notre vie, nos actes, notre paix dans les moments d'épreuve, notre confiance en ce que nous croyons, notre bienveillance, notre amour désintéressé va faire prendre conscience à ceux qui nous entourent de leur déshydratation spirituelle. N'est-ce pas ? Le but de Dieu au travers de nous, c'est de donner envie au monde d'obtenir ce que nous avons obtenu par grâce. Bien, si nous l'avons obtenu par grâce, eux aussi peuvent l'obtenir, mais pour cela, il faut qu'ils aient soif. Il faut qu'ils voient des gens qui sont différents d'eux-mêmes, qui ont quelque chose qu'ils n'ont pas. Vivons-nous cette confiance, cet amour, cette joie, cette paix, afin de susciter une soif spirituelle chez nos voisins, chez notre collègue de travail, chez nos proches. Je vous pose la question. Je me la pose également. Est-ce que je suis dans de bonnes dispositions de cœur pour me laisser guider par le Saint-Esprit ? Et être un vrai témoin qui donne soif, la soif de Dieu. Comme je vous le disais, nous allons arriver, nous n'aurons pas trop de retard, puisque nous passons au chapitre 4 de ce message. Comme le sel, le croyant doit donner, doit être conservateur, un conservateur. Waouh ! Alors là, je ne parle pas de politique, n'est-ce pas ? On est bien d'accord ? Hein, centriste, ça ne nous intéresse pas. Hein, une des caractéristiques, et là la plus connue et reconnue du sel, c'est sa faculté de conserver les aliments. D'accord. Au risque de vous surprendre, le frigo, je vais l'écrire, c'est une boutade, hein, n'a pas toujours existé. Hein, il fait même relativement récent. Hein, il appartient au XXe siècle, mais avant, il fallait bien conserver les aliments malgré tout. Sinon, on est obligé de pêcher le poisson et de le manger immédiatement. C'était un peu embêtant. Donc avant, il fallait bien trouver une solution pour conserver ces aliments, la viande, le poisson en particulier, bien entendu. Nos ancêtres ont donc utilisé le sel comme conservateur. Donc en salage à sec, pour la charcuterie par exemple, ou en saumurage, en utilisant un trempage dans une solution d'eau salée. Internet. Parce que là, moi, j'y connaissais rien, comme d'habitude. On trouve beaucoup de choses très intéressantes, n'est-ce pas ? Et très techniques également. Hein, comment, quand on trempe un aliment dans de la saumure, eh bien, comment il se conserve ? Eh bien, il paraît que la solution saline étant plus lourde que l'eau qui est dans le poisson ou dans la viande, eh bien, par aspiration, le sel prend la place de l'eau du poisson ou de la viande. C'est beau. Je ne l'ai pas inventé. Hein. En tout cas, le sel est bien un conservateur. Alors, je vous pose la question, le chrétien, il est censé conserver quoi ? Je me suis posé la question quand même. Ouais, conserver quoi ? Le chrétien, les chrétiens exercent une influence de conservation dans le monde. Alors, conservation, ils retardent la dérive morale et spirituelle du monde. D'ailleurs, quand l'Église disparaîtra lors de l'enlèvement, la puissance néfaste de Satan sera libérée. On peut le lire dans 2 Thessaloniciens 2, 7 à 8, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Effectivement, si on lit bien la parole de Dieu, il faudra seulement 7 ans au monde pour se corrompre complètement après notre départ. C'est pas beaucoup, 7 ans. Alors imaginez depuis des millénaires que l'Église existe sur Terre, comment nous sommes conservateurs et comment Dieu nous utilise. Jusque-là, les chrétiens exercent donc une influence puissante sur le bien-être du monde. En effet, en tant que chrétiens, nous sommes le temple de Dieu sur Terre. Donc, oublions l'étiquette de chrétien conservateur, c'est-à-dire fermé au monde ou à ses besoins, mais faisons œuvre de conservateur de la grâce divine sur terre tant que nous sommes présents. Mais pour cela, il faut que notre vie soit sainte, pleine de grâce, de bonté, d'amour, de confiance, pour repousser l'œuvre de Satan sur terre. Et cela, nous ne pouvons l'accomplir que par le Saint-Esprit. Nos propres efforts ne servent à rien. Si le Saint-Esprit n'agit pas en nous, bien nous conserverons rien du tout. Nous arrivons au terme de ce petit discours salé. Mais ces quelques minutes passées à étudier la parole de Dieu doivent dépasser d'ailleurs le cadre de ce discours. En effet, Dieu aurait pu choisir les anges afin d'évangéliser le monde. Dieu aurait pu utiliser sa puissance pour chasser le mal de la terre. Pourtant, Dieu a choisi d'utiliser nos faibles petites vies afin de montrer sa grâce au monde. Dieu a choisi de faire habiter son esprit en nous afin qu'il retienne le mal sur la terre. Ôtez-vous de l'esprit que c'est vous qui retenez le mal. C'est le Saint-Esprit qui le fait au travers de nous. Alors, je vous repose la question ce matin. Quelle influence avons-nous en tant que chrétiens sur le monde qui nous entoure? Sommes-nous réellement le sel de la terre? Donnons-nous la saveur de Christ au monde? Est-ce que nous purifions le monde par notre exemple? Est-ce que nous donnons soif de Christ à ce monde perdu? Sommes-nous de bons conservateurs en attendant la prochaine venue de notre Seigneur Jésus-Christ? Prions. Seigneur,